Thérèse d'Avila, c'est bien cela?
Oui.
Ça remonte à 2 semaines, donc c'est un peu lointain peut-être dans vos esprits. Et j'avais commencé cette présentation de Thérèse d'Avila en mettant tout cela sous le signe de la pédagogie. Hein? Thérèse d'Avila comme une grande pédagogue. Pédagogue de l'oraison, pédagogue des sentiers de Dieu. Et il me semble avoir terminé en relevant le courage et la liberté intérieure qu'avait eu Thérèse d'Avila en écrivant à un siècle où l'Inquisition surveillait de très 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 près à la fois les alumbrados, mais aussi tous ceux qui étaient associés de près ou de loin à ce mouvement. Donc la vie mystique, si vous voulez, était facilement suspecte. Alors qu'une femme ait pris la plume pour écrire sur ces sujets, c'est quelque chose de tout à fait remarquable. Inversement, après la mort de Thérèse, lorsque elle reçoit l'approbation pontificale, elle reçoit à titre posthume, l'approbation pontificale à son œuvre écrite qui est donnée en 1607, en 1607, eh bien, cette approbation a eu finalement un impact important. On le verra un peu plus tard, dans une période où vous avez une sorte de courant anti-mystique qui commence à apparaître, et le fait qu'à ce moment-là, la plus haute autorité de l'Église ait donné sa caution à l'œuvre écrite de Thérèse d'Avila a eu un rôle important. Et pareillement, l'oraison composée en 1614 pour son office, parce qu'elle était sainte à ce moment-là, cette oraison évoque sa céleste doctrine. Donc, vous voyez, les termes aussi accréditent un petit peu les ouvrages d'une mystique et son exemple. Alors, voici comment Charles-André Bernard, professeur à la Grégorienne, professeur en histoire de la spiritualité jésuite, voici comment il situait la place de Thérèse et de ses contemporains mystiques par rapport à leurs devanciers. Vous voyez comment situer la place de ces mystiques du XVIe siècle par rapport à la période qui les précède juste avant la fin du Moyen-Âge. Alors, il ne s'agit plus d'élaborer une doctrine de la connaissance expérimentale de Dieu. Vous voyez, l'heure n'est plus à réfléchir sur comment ça se passe, comment se fait-il que on puisse avoir une connaissance expérimentale de Dieu. Vous voyez, essayer de donner une doctrine d'intelligence de cette réalité si complexe. L'heure n'est plus à ça. Les auteurs médiévaux avaient fourni sur ce point un effort spéculatif considérable, notamment les réno-flamands. Mais il s'agit de définir les attitudes pratiques. Voilà. Là, on est dans le champ terrestre. De définir les attitudes pratiques qui permettent aux fidèles de s'aventurer et de progresser en pleine sécurité dans une voie difficile où ils se trouvent le plus souvent seuls. Bon, j'y reviendrai. Thérèse d'Avila va dire, pour les débutants, vous trouvez quantité d'ouvrages. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'accompagner ceux qui vont au-delà et qui, de fait, se trouvent dans des régions où on leur dit de toutes parts que ce serait très dangereux, qu'ils risquent beaucoup d'illusions, etc., etc. Moi, je vais me faire leur guide dans ces régions-là. Donc, définir des attitudes pratiques, enseigner à progresser, entraîner sur le chemin de l'oraison, y encourager, malgré toutes les craintes que l'Inquisition et les autres font retentir, fournir également des critères de discernement sur la qualité et l'authenticité de l'expérience mystique, telle fut la contribution essentiellement pédagogique de Thérèse à la grande tradition spirituelle catholique. Vous situez un petit peu sa place. Voilà. C'est dire que l'objet principal, premier de l'attention de Thérèse d'Avila n'est point cette mystique de l'essence ou l'essence divine prise en elle-même, mais les états intérieurs du priant, du contemplatif. Thérèse d'Avila voit l'union divine, elle va en parler évidemment, à travers ses réactions psychologiques personnelles. Donc vous voyez, on n'est pas dans le domaine de l'ontologie, mais plutôt de la phénoménologie, on pourrait dire, religieuse, des réactions psychologiques personnelles qu'elle analyse avec une remarquable lucidité d'introspection et dont elle classe les données et les éléments. Alors, cette remarque de Louis Cogniet, moi j'ai envie pas de la corriger, mais d'y ajouter un élément important, c'est que c'est vrai que Thérèse va regarder un petit peu ce qu'elle vit et l'analyser avec beaucoup de justesse, mais Thérèse a reçu aussi des lumières, des expériences, si vous voulez, des expériences un peu extraordinaires, des visions qui sont aussi des sources pour elle de son enseignement, qui vont l'aider en tout cas à avoir des lumières supplémentaires. Notamment, vous connaissez la vision du château qui ouvre le grand livre des demeures. Cette vision, elle l'a reçue et c'est une vision qui évidemment va l'aider à donner son enseignement. Donc Thérèse, vous voyez, relève le défi qui est celui de sa période. C'est une période très intéressante, le 16e siècle, parce que vous voyez, on est encore dans la transmission de tout l'héritage du Moyen-Âge. Donc, c'est une période de transition, vous voyez. Il y a cette transition, tout ce qu'on a reçu du Moyen-Âge, que Thérèse reçoit comme tous ses contemporains, et en même temps, on entre dans une ère nouvelle, un peu caractérisée, je vous l'ai dit, comme ère du sujet, le sujet, voilà. Qu'est-ce que je vis, moi ? C'est pas un sujet fermé sur lui-même. Vous voyez, le sujet devient central. Vous avez, c'est très célèbre à l'époque, un tableau qui est tout à fait remarquable, de Dürer, donc un très grand artiste, qui peint, qui représente une gravure du Christ, mais avec ses traits à lui. Vous avez le Christ et en même temps, c'est une sorte d'autoportrait. Donc on voit là, il y a quelque chose, évidemment, le sujet est très présent, le sujet qui s'identifie au Christ, ou le Christ qui renvoie au sujet, enfin, c'est un tableau à double entrée. Thérèse, donc, pour vivre cette ère de transition, et pour aider aussi le peuple chrétien à la vivre, et à entrer dans l'âge du sujet, on peut dire, eh bien, a engagé toute son acuité de conscience, son intuition féminine, et son équilibre personnel exemplaire pour définir, en fonction de son expérience à elle, une pédagogie de l'horizon mental. Alors, venons-en un petit peu au grand point de l'enseignement de Thérèse, parce que beaucoup d'entre vous, vous les connaissez sans doute mieux que moi, et vous pourrez y ajouter. Bon, du côté de l'homme, la vie spirituelle apparaît pour Thérèse comme un mouvement d'intériorisation. Pourquoi faire ? Pour retrouver l'hôte intérieur qui vit dans l'âme et entrer avec lui dans un commerce d'amitié. Vous voyez, du côté de l'homme, démarche d'intériorisation pour trouver celui qui habite au centre de l'âme et entrer avec lui dans un commerce d'amitié. C'est sous l'angle d'une relation de personne à personne que Thérèse envisage la vie mystique. Une relation de personne à personne. Et son suprême point d'aboutissement, eh bien, elle va l'exprimer avec le symbolisme nuptial, celui des fiançailles et puis du mariage spirituel. Ça, voilà un symbolisme dans lequel elle est très à l'aise. Alors, on a vu avec les cours précédents, et puis déjà l'an dernier, qu'il y a toute une histoire, et que déjà Origène le premier fait un commentaire du Cantique des Cantiques. Bon, vous voyez, c'est toute une histoire très ancienne. Ce symbolisme nuptial, évidemment, est tout à fait adapté à ce que veut exprimer le mystique, et a fortiori les mystiques femmes. Donc Thérèse est très à l'aise dans ce symbolisme, et beaucoup moins, au contraire, avec les formules annihilationnistes, excusez le mot, ces formules de la mystique, de la négation, du rien senti, des rénaux flamands, hein, des formules où on presse plutôt l'homme de se vider de tout. C'est vraiment pas ce que vit Thérèse. Thérèse, c'est plutôt l'impression, l'expérience d'une plénitude, d'une rencontre qui comble, de la rencontre des épousailles quand elle est au sommet. Mais vraiment pas cette expérience de où on se vide de soi-même. Donc voilà un petit peu du côté, vous voyez, de l'homme, effort d'intériorisation. Mais ce qui est premier chez Thérèse, évidemment, ce qui est à l'origine, l'initiative, elle est du côté de l'amour divin qui suscite et qui attend la réponse de l'homme. Thérèse lui reconnaît le rôle décisif et majeur, évidemment. Bon, c'est son expérience aussi, hein. Vous connaissez la poésie, « Je suis vôtre, tu m'as attendu ». Et elle a fait l'expérience de toute la patience de Dieu qui l'a sollicité et qui l'a attendu très très longtemps. Donc l'initiative est bien du côté de Dieu. Donc voilà pour les deux personnages, hein, les deux protagonistes de ce commerce d'amitié. Maintenant, qu'est-ce qui en fait la nature ? Eh bien, c'est un échange qui s'approfondit sans cesse dans l'amour et par l'amour. Ajoutons une chose, cet échange fait une place centrale à l'humanité du Christ. Alors, on va voir sur la feuille que vous avez, je vous ai mis une très très longue citation du Chemin de la Perfection. Je ne le regrette pas parce que c'est un très beau texte et puis qui, évidemment, montre bien le christocentrisme de Thérèse. Un point maintenant que nous allons trouver qui est commun à Saint Jean de la Croix, Thérèse est remarquable par son souci de défendre la liberté de l'âme. Alors là, vous voyez, petite différence, bon, il ne faut pas trop poser évidemment, mais différence réelle avec tous ses prédécesseurs de la fin du Moyen-Âge et encore, sous un certain regard, Ignace de Loyola, avec des méthodes, hein, avec des exercices spirituels, avec toute une méthodologie assez planifiée, assez organisée. Thérèse n'entre absolument pas dans ce schéma-là. Ça ne veut pas dire qu'elle n'encourage pas à utiliser des moyens concrets, mais elle a un très très grand souci de défendre la liberté de l'âme pour mieux se soumettre à l'action de l'Esprit-Saint. Et il y a chez elle une certaine défiance à l'égard des méthodes qui deviendraient des corsets. Hein, le corset, c'est une sorte d'armature qui enferme le corps, si vous voulez, donc qui étouffe un peu. Donc Thérèse d'Avila, je le redis, est bien une pédagogue de l'oraison, et en un certain sens, l'oraison est l'unique sujet qui l'intéresse. Oui, mais à condition de ne pas comprendre ce mot dans un sens trop restreint, vous voyez. Ce n'est pas simplement l'heure de la prière ou les heures de la prière silencieuse. Quand elle parle d'oraison, on s'aperçoit que le mot a un sens beaucoup plus ample. C'est finalement, vous connaissez la fameuse définition, ce simple échange d'amitié avec Dieu dont on se sait aimé et qui évidemment, à ces moments forts, mais englobe aussi toute la vie. Alors vous voyez, quand elle parle d'oraison, elle parle en fait de toute la vie spirituelle, ou elle parle de l'oraison comme un indicateur de la qualité de toute la vie spirituelle, comme un témoin un peu. Dans le livre des demeures, aussi appelé donc le château de l'âme, Thérèse suit le développement de la vie spirituelle depuis ses commencements jusqu'au sommet, l'union transformante. C'est son chef-d'œuvre, hein, c'est son plus grand livre. Et là, elle décrit en détail, sous force imagée, les divers stades du développement de la vie mystique. Alors, elle en a retenu 7. Et à lire cet ouvrage, on voit bien que pour elle, l'oraison est au service de la perfection de l'amour de Dieu. Hein. Et là, j'utilise l'oraison au sens plus restreint du mot, hein, le temps de la prière, si vous voulez, est vraiment au service de l'amour et de sa croissance. C'est dans cet amour de Dieu et du prochain, évidemment, qu'elle fait consister, comme toute la tradition, la sainteté. Mais elle tend aussi à considérer que l'épanouissement de la charité dans l'oraison s'accompagne habituellement d'une certaine expérience mystique, quelle qu'en soit la nature chez chacun. Quand je dis expérience mystique, je pense plutôt, si vous voulez, à ce qui fait le fond de cette expérience. Pas aux modalités, hein, plus ou moins extraordinaires, mais le fait que, ben oui, il se passe quelque chose qui fait rejoindre le mystère avec un M majuscule. Pour le dire autrement, si vous voulez, je vais prendre un peu un va-et-vient, vous voyez. L'oraison est au service de la croissance de l'amour, et c'est là que consiste la sainteté. Mais pour Thérèse, elle conçoit très mal qu'il y ait une charité en croissance, sans une vie mystique. Voilà, ça veut dire. Pour elle, ça n'entre pas à la fois dans son expérience et puis dans le chemin dans lequel elle veut entraîner et conduire derrière elle. Alors, je redis, hein, quand on dit expérience mystique, ce n'est pas au sens extraordinaire, ce n'est pas au sens de modalité particulière. Ça va ? Bon, ceux qui ont participé au colloque de Lyon, vous voyez bien, quoi, ils retournent. Donc les écrits de Thérèse, hein, centrés sur l'oraison, et on peut dire le développement de la vie de charité, ce commerce d'amitié avec Dieu, abordent aussi beaucoup d'autres thèmes, la connaissance de soi, l'humilité, la charité fraternelle, la direction spirituelle, les amitiés spirituelles, l'ascétisme, l'apostolat, etc. Bon, il est question évidemment de tout ça. En tout cas, elle l'aborde à la fois dans ses écrits proprement dits, mais aussi dans sa correspondance extrêmement riche. Voilà un petit peu, si vous voulez, pour la présentation, l'essentiel en tout cas. Je rajoute à cela... une petite remarque sur l'apport original de la Madre. Où situer l'apport original de Thérèse d'Avila? Eh bien, je crois qu'il est dans son témoignage sur les sommets. Et si elle est remarquable dans son témoignage, c'est, bon, pour ce qu'elle dit de l'homme, de l'action de l'homme, du comportement que l'homme doit adopter dans ces régions, évidemment. Mais elle est encore plus intéressante, je dirais, par ce qu'elle nous dit de l'action de Dieu dans ces sommets. Et c'est là où elle est vraiment maîtresse de vie mystique. Et c'est là où, vous voyez, quand je disais qu'elle parle de... elle donne beaucoup de notes psychologiques, c'est vrai, mais elle est aussi témoin de l'action de Dieu. Donc si elle rejoint son lecteur dès les premières demeures, hein, elle excelle surtout dans les ultimes demeures sur les chemins moins fréquentés de la contemplation. Bon, il suffit de voir un peu la part respective des chapitres consacrés aux premières demeures. Ça va très très vite, hein, c'est très bref, très court, il n'y en a pas beaucoup. Et puis par contre, quand on arrive au 5e, 6e, 7e, alors là, même au niveau du volume, c'est beaucoup plus abondant. Alors, dans ces régions très élevées, eh bien, Thérèse donne un enseignement tout en nuances, respectueux de l'unicité des parcours. Bon, elle donne des grandes lignes, des grandes... mais en même temps, bah, elle sait bien que chaque chemin est tout à fait unique. En même temps, vous voyez, je crois qu'il y a vraiment un apport très précieux parce que les mystiques le disent, c'est des régions dans lesquelles il y a beaucoup de zones d'obscurité et d'inquiétude. Je dirais d'inquiétude d'autant plus grande que ben, ce sont des chemins peu fréquentés, que les directeurs spirituels capables d'éclairer dans ces chemins, à ces sommets, sont rares, que beaucoup, au contraire, mettent plutôt le doute et l'inquiétude et les angoisses que vraiment des lumières. C'est pour ça que ici Thérèse est vraiment très très précieuse. Enfin, Thérèse indique les signes d'une action de Dieu qui devient prédominante. Hein, ces fameux signes des quatrièmes demeures, ces signes qui permettent de discerner l'expérience qui devient mystique et d'y correspondre parfaitement, en sachant que l'adaptation, la réponse de l'homme doit s'adapter, hein, c'est plus tout à fait la même. Voici ce qu'elle écrit à Balthazar Alvarez, ce jeune jésuite. « J'appelle surnaturel ce qui ne se peut acquérir ni par mon industrie, ni par ma diligence, quelque effort qu'on fasse, mais si disposé est possible, et ce doit être là un point très important. » Vous voyez, Thérèse est très équilibrée. La vie mystique comme telle, l'entrée dans le surnaturel, entre guillemets, comme telle, ça n'est pas simplement question de technique humaine, non, ça dépasse complètement le pouvoir humain. Il n'empêche, l'homme peut s'y disposer, et déjà, ça c'est très important. Donc je termine avec ceci, les plus hauts états de la vie spirituelle donnent à voir ce que Dieu produit en qui s'offre entièrement à lui. Et le don de soi est de fait au fondement de sa doctrine mystique. On peut dire que toute l'ascèse que Thérèse demande se résume en une seule formule, le don de soi. Alors, si vous voulez à la fois vous reposer et puis entrer dans le contact avec Thérèse, non plus des commentaires sur Thérèse, mais ce qu'elle écrit elle, eh bien, nous pouvons prendre notre feuille de route numéro 12. Très belle illustration donc du christocentrisme de Thérèse. Efforcez-vous, mes filles, puisque vous êtes seules, de trouver une compagnie. Mais quelle compagnie préférable à celle du Maître même, qui vous a enseigné la prière que vous avez dite. Représentez-vous le Seigneur lui-même à côté de vous, et considérez avec quel amour, avec quelle humilité il daigne vous instruire. Croyez-moi, autant que vous le pourrez, demeurez dans la compagnie d'un si excellent ami. Si vous prenez l'habitude de vous tenir en sa présence, et s'il voit que vous le faites pour lui plaire, vous ne pourrez plus, comme on dit, vous en débarrasser. Il ne vous abandonnera jamais. Il vous aidera à supporter toutes vos peines. Vous l'aurez enfin partout avec vous. Pensez-vous que ce soit peu de chose d'avoir à ses côtés un tel ami? Je ne vous demande pas maintenant des méditations sur ce divin sauveur, ni beaucoup de raisonnements, ni de grandes et subtiles considérations. Portez seulement sur lui vos regards. Oui, arrêtez sur lui les yeux de votre âme, quelque instant au moins, si vous ne pouvez faire plus. Rien ne saurait vous en empêcher. Vous arrêtez bien vos yeux sur des objets de toute laideur, et vous ne pourriez pas le faire sur la beauté la plus accomplie qui se puisse concevoir. Votre époux, lui, ne détourne pas de vous ses regards. Malgré tant d'indignité et de vilainie dont vous vous êtes rendu coupable envers lui, il n'a cessé un seul instant de vous regarder. Et vous croiriez faire un grand effort si, détournant les yeux des choses extérieures, vous les fixiez quelques moments sur lui. Considérez qu'il n'attend, comme il le dit à l'épouse des Cantiques, qu'un regard de nous. Il y tient si fort qu'il n'omettra rien pour que vos yeux et les siens se rencontrent. Un très très belle image, très belle, hein, très beau passage. La rencontre de deux regards. Là, on est en plein dans le mystère de l'horizon. Il n'omettra rien. Vous voyez, c'est lui, hein, c'est lui qui travaille d'abord. Il y tient si fort qu'il n'omettra rien pour que vos yeux et les siens se rencontrent. On peut dire que il suffit à l'homme, il n'est demandé à l'homme finalement que d'accepter que ses yeux rencontrent les yeux qui déjà l'attendent. qu'il y tient si fort qu'il n'omettra rien pour que vos yeux et les siens se rencontrent, et vous le trouverez comme vous désirez le voir. Une femme qui peut bien vivre avec son mari doit, dit-on, se plier à son humeur. S'il est triste, elle doit montrer de la tristesse. S'il est joyeux, de la joie. Quand bien même, elle n'en aurait point le cœur. Bon, ça c'est petit coup de patte en passant, pleine d'humour. Remarquez en passant, mes sœurs, de quelle servitude vous êtes affranchies. Or, notre Seigneur tient envers nous, mais en toute vérité et sans ombre de feinte, la même conduite que cette femme envers son mari. Il se fait le sujet et il veut que vous soyez les maîtresses. Sa volonté se conforme en tout à la vôtre. Êtes-vous dans la joie ? Considérez-le ressuscité. Sa seule vue au sortir du sépulcre vous fera tressaillir d'allégresse. Quel éclat, quelle beauté, quelle majesté, quel air de triomphe et de bonheur. On dirait qu'il vient de la bataille et de la victoire. Il a conquis pour vous un royaume qu'il vous destine et il veut se donner à vous, lui-même, se donner à vous, lui-même, avec ce royaume. Eh bien, est-ce beaucoup faire que de jeter quelquefois les yeux sur celui dont l'amour vous réserve une telle couronne ? Êtes-vous dans la tribulation ou la tristesse ? Suivez-le au jardin de Gethsémani. Considérez dans quelle affliction son âme doit être plongée pour que lui, la patience même, avoue sa peine et s'en plaigne. Ou bien encore, considérez-le attaché à la colonne, accablé de souffrance, toute sa chair en lambeaux, par l'excès de l'amour qu'il vous porte. Harcelé des uns, couvert de crachats par les autres, renié et abandonné par ses amis, sans qu'il en revienne un sur ses pas pour le défendre, transi de froid et réduit enfin à une si grande solitude que vous pouvez vous consoler l'un l'autre. Ou bien voyez-le chargé de sa croix, si plein de larmes. Il oubliera ses douleurs pour consoler les vôtres, et cela uniquement parce que vous allez vous consoler avec lui et que vous tournez la tête de son côté pour le regarder. Bon. Il faudrait rajouter aussi des textes. J'aurais pu rajouter au moins un texte sur les septièmes demeures pour vous montrer autre chose de Thérèse, mais je crois que ce texte déjà est très beau. Alors, nous allons maintenant laisser Thérèse et rejoindre celui qui est un peu le frère d'âme de Thérèse, une relation très belle, hein, d'amitié spirituelle et puis de maternité, de paternité. Thérèse d'Avila a été mère à l'égard de Jean de la Croix, Jean de la Croix a été père à son égard. C'est la très belle réalité de cette amitié. Donc Jean de la Croix meurt en 1591. Il y a quasiment une petite génération d'écart entre les deux. 1515 pour un, 1542. Donc il y a quand même un bon écart d'âge. On vient de le voir, la grâce propre de Thérèse d'Avila comme docteur fut sans doute de fournir la description psychologique de ses états mystiques. Voilà un peu pour la grâce propre de Thérèse. Eh bien, la grâce propre de Jean de la Croix, son meilleur collaborateur dans la réforme du Carmel, fut tout à la fois d'expliquer les lois de la contemplation divine, de la contemplation infuse, hein, les lois de la contemplation, les expliquer, dans un registre didactique, ça veut dire qui enseigne, et très objectif. Alors là, pour le coup, on a l'impression que peut-être une impression, mais on a l'impression que Saint Jean de la Croix parle vraiment à distance, vous voyez, qu'il parle d'un autre que lui, en tout cas que rien n'apparaît apparemment de ce qu'il vit lui, et il se met à distance, c'est très objectif. Donc, il explique les lois de la contemplation infuse. Et puis, je crois, sa deuxième grâce propre, et là où il a rendu un service peut-être inégalé à l'Église, c'était d'évoquer les splendeurs de l'âme divine en l'âme transformée. Alors, qu'est-ce qui se passe dans une âme quand elle est au sommet et que Dieu peut faire en elle tout ce qu'il souhaite, tout ce qu'il désire ? et quand il n'y a plus aucun obstacle. Donc expliquer les lois de la contemplation et puis aussi décrire, déployer tout ce que Dieu fait au sommet. Et pour ce faire, Saint Jean de la Croix, alors c'est là où il est très grand, hein, grand génie aussi au niveau du langage, c'est qu'il a su utiliser à la fois un langage très précis, très analytique, et aussi le langage symbolique et poétique. Alors, après ces petits mots d'introduction, faisons une brève évocation de sa biographie. Au contraire de Thérèse d'Avila, Jean de Fontiveros est issu d'un milieu extrêmement modeste. Tellement modeste que vraisemblablement, un de ses jeunes frères est mort de faim, enfin est mort de malnutrition, lors d'une famine comme il en existait pas mal en Espagne. Donc, il a connu vraiment la très grande pauvreté. Autre différence avec Thérèse d'Avila, il a fait, lui, des études solides en théologie. Salamanque notamment. Au contraire de Thérèse d'Avila, toujours, il se livre très peu. Et il demeure muet sur ses expériences personnelles. Enfin, pas tout à fait. En tout cas, il donne l'impression de ne pas se mettre en avant lui. Alors, dès les débuts de la réforme du Carmel, il rejoint la Madre Thérèse. Vous savez peut-être que c'est l'un des deux premiers carmes de la réforme. Et c'est lui qui a porté plus que tout autre le poids des oppositions violentes que la réforme a suscitées. Il est emprisonné pendant 9 mois à Tolède et même à la fin de sa vie, il est calomnié à nouveau par des confrères jaloux, et là, à l'intérieur de la réforme. Il meurt à Ubeda en 1591. Alors, le drame, c'est que les poursuites dont il a été l'objet à la fin de sa vie a fait qu'une part importante de son œuvre a été détruite et demeure pour l'instant perdue. Et vraisemblablement, on ne retrouvera jamais rien de plus. C'est pour échapper à de nouvelles attaques calomnieuses que, malheureusement, les carmélites, ses correspondants, beaucoup de gens qui avaient conservé de lui des textes, et peut-être même lui-même, Jean de la Croix, ont détruit donc une partie importante de son œuvre. Saint Jean de la Croix a été canonisé en 1726 et il a été déclaré docteur de l'Église 2 siècles plus tard, en 1926, par Pie XI. En cela, il a précédé la Madre Thérèse de 44 ans, puisque elle a dû attendre 1970, étant femme, pour être docteur de l'Église. Alors, passons maintenant à une petite présentation de cet enseignement. Premier point, premier fondement, si vous voulez, l'orientation fondamentale de l'homme à Dieu. Ça, c'est évidemment central chez Saint Jean de la Croix. L'âme est faite pour Dieu. L'âme est faite pour Dieu et ne saurait avoir d'autre fin véritable. C'est une affirmation sereine de sa part, il ne cherche même pas à la démontrer, il l'affirme tranquillement. Alors, vous avez ce petit texte, je crois, sur votre feuille de route, un passage de la vie flamme. Le centre de l'âme, c'est Dieu. Voilà. Quand elle y arrive, selon la capacité de son être, la force de son activité et de ses inclinations, elle est parvenue à son centre le plus profond et le dernier qu'elle puisse atteindre en Dieu. Pour le dire autrement, Dieu est le centre de l'âme Et de même que la pierre est entraînée vers le sol par la pesanteur, ben de même, l'âme est entraînée en soi vers ce centre de l'âme où Dieu l'attend. Elle est orientée par l'amour, elle est entraînée par l'amour. Dire que la force de pesanteur qui s'exerce sur une âme, c'est l'amour. L'amour de Dieu qui l'attire, et puis l'idéal, c'est que son amour, à elle aussi, accélère le mouvement. Non seulement ne s'y oppose pas, ne le freine pas, mais même rejoigne le même mouvement. Il en résulte également pour Jean de la Croix que le chemin spirituel est essentiellement une voie d'intériorité et que l'homme y est précédé par cette force d'attraction mystérieuse, cette force qui vient de Dieu. Alors, nouvelle citation que je vous ai mise de la Vive Flamme. Il faut remarquer que l'amour est une inclination de l'âme, une force ou une faculté qu'elle possède pour aller à Dieu. Voilà, vous voyez, la part de l'homme. Hein, d'abord, donc, le centre de l'âme, Dieu, l'âme faite pour tomber dans son centre, hein, la force d'attraction, la pesanteur, la gravité, si vous voulez, la force de gravitation qu'est l'amour de Dieu. Et puis voilà, maintenant, on évoque la part de l'homme. Il faut remarquer que l'amour est l'inclination de l'âme, une force et une faculté qu'elle possède pour aller à Dieu. C'est par le moyen de l'amour qu'elle s'unit à lui. Voilà pourquoi, plus elle possède de degrés d'amour, plus elle pénètre dans les profondeurs de Dieu et se concentre en lui. Par conséquent, la voie qui mène à Dieu opère la jonction d'un double amour, celui de l'homme pour Dieu, mais auparavant celui de Dieu pour l'homme. Car ce divin feu d'amour n'est autre que l'Esprit Saint, comme le dit la Vive Flamme. Donc l'union mystique revêt chez Saint Jean de la Croix, comme chez Thérèse d'Avila, un caractère éminemment interpersonnel et amoureux, et en aucun cas le caractère d'une fusion panthéiste dans le grand un. Je dis ça parce que Saint Jean de la Croix a toujours fasciné quantité de gens, dans le christianisme évidemment, dans le catholicisme, mais aussi à l'extérieur, donc qui se sont saisis de lui pour lui faire dire vraiment ce qu'il ne dit pas. Donc, espèce de on plaque sur lui une sorte de schéma panthéiste qui n'est vraiment tout à fait étranger à sa perspective. Alors voilà un petit peu pour le cadre général. Alors ensuite, on va, si vous voulez, faire, je ne vais pas dire un inventaire, mais rencontrer quelques grands thèmes de Saint Jean de la Croix. Donc ce sera un peu par tâche, par quelques grands thèmes. Premier thème, c'est description de l'âme parvenue au sommet de la vie mystique. Alors là, vous avez dans le Cantique spirituel et dans la Vie Flamme des passages peut-être inégalés dans l'histoire de la littérature spirituelle, même si les Rénaux flamands avaient déjà exprimé beaucoup de choses, de très belles choses. Donc, Cette présentation, si vous voulez, de l'âme parvenue au sommet de la vie mystique, eh bien, elle est présentée par Jean de la Croix avec la transformation d'amour qui s'opère en elle. Et cette transformation permet à l'âme, et là vous avez les plus hautes affirmations de Jean de la Croix, de participer pleinement aux opérations divines et de participer en particulier à l'aspiration de l'Esprit-Saint. Et ce que le Père et le Fils font de toute éternité dans la Trinité, l'aspiration de l'Esprit-Saint, eh bien voilà que l'âme reçoit d'y participer. Ça, c'est tout le fruit d'une transformation qui s'est faite durant toute sa vie. Alors on va lire ensemble ce passage du Cantique spirituel que vous avez sur vos feuilles. Que l'âme devienne capable d'une expérience aussi sublime par voie de participation. Alors, le mot est important, hein. C'est pas par un droit de nature, évidemment. L'âme ne fait pas ça de toute éternité. Il ne s'agit pas de la confondre avec l'unique Fils de Dieu, mais par participation. L'âme devient capable d'une opération aussi sublime. Nous ne devons pas le regarder comme impossible. Nous ne devons pas le regarder comme impossible. Étant donné que Dieu a daigné unir l'âme à la Sainte Trinité, union qui la rend déiforme, en forme de Dieu, si vous voulez, et Dieu par participation, qu'y a-t-il d'incroyable à ce qu'elle opère, elle aussi, son œuvre d'intelligence, de connaissance et d'amour, ou pour mieux dire, que la trouvant réalisée dans la Trinité, l'âme l'opère conjointement avec cette même Trinité. Vous voyez un peu l'affirmation de Jean de la Croix, au sommet évidemment. Si vraiment l'âme est rendue Dieu par participation, eh bien, faut-il s'étonner qu'elle participe à l'œuvre intratrinitaire, hein, d'intelligence, de connaissance et d'amour que Dieu fait de toute éternité. Ceci a lieu par communication et participation, et c'est Dieu qui l'opère dans l'âme. C'est précisément en cela que consiste la transformation aux trois personnes, puissance, sagesse et amour. En cela, l'âme est semblable à Dieu, et c'est pour l'amener là qu'il l'a créé à son image et à sa ressemblance. Je crois qu'on n'a pas, si vous voulez, d'affirmation plus extrême de la dignité de l'homme. C'est quand même incroyable. Quand vous lisez ce passage, c'est l'homme a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, voilà. Et s'il a été créé ainsi, c'est pour l'amener à se sauver, pour que l'homme soit capable de participer, mais vraiment, à toutes les opérations de la Trinité. Et Saint Jean de la Croix dit ça très paisiblement, très sereinement. Pour lui, ça ne pose pas un seul problème. Enfin, pas un problème. Si, il y a un chemin qui est difficile. Mais le fait même, pour lui, c'est une conviction. Donc, première affirmation, évidemment, de la vocation de l'âme. Vous voyez que Saint Jean de la Croix la place très, 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 très haut. Deuxième point, deuxième thème, si vous voulez, c'est le thème de l'Esprit Saint. Vous avez dans la vie flamme d'amour un traité du Saint-Esprit. Alors, pas un traité du Saint-Esprit vu en dogmatique, en théologie dogmatique de l'Esprit Saint, mais plutôt un traité du Saint-Esprit. Plutôt un traité de l'économie du Saint-Esprit, de son action sanctifiante et transformante dans l'âme. C'est une approche pneumatologique qui est assez inhabituelle dans la période des temps modernes et dans l'ère de la théologie occidentale. Et c'est, vous voyez, dans ces, pour décrire, ou plutôt pour évoquer, hein, ces sommets, à la fois ce dont on a parlé juste avant, donc la transformation d'amour de l'âme, et puis cette œuvre de l'Esprit-Saint, c'est là où surtout Jean de la Croix va recourir au symbole. Symbole des lampes de feu, symbole des ombrobrations, etc., etc. Là, il va utiliser, et on peut dire que ces sommets, c'est là, vous voyez, chaque fois qu'il parle des sommets, il le fait d'une manière privilégiée, à travers la poésie, le poème. Le poème qui suggère plus, vous voyez, qui suggère davantage qu'un texte très, très analytique. Le symbole donne à penser. Le symbole donne à penser. Tandis que le concept tend à l'univocité. Bah, oui, évidemment. C'est l'avantage du concept aussi, c'est qu'il est très précis mais univoque. Tandis que le symbole, ben, il y a une richesse de sens qui correspond tout à fait à ce mystère tellement riche, hein, il y a tellement de choses à dire, c'est évidemment plus adapté. Donc par conséquent, c'est dans les poésies et leurs commentaires que saint Jean de la Croix livre ses plus hauts enseignements. Il y a évidemment la nuit obscure, il y a évidemment la montée du Carmel, mais là c'est plutôt les récits, enfin les textes ascétiques, hein, ce qui montre le chemin. Troisième thème, la nuit. Non, c'est pas un mystère, vous le savez tous. Jean de la Croix est le docteur de la nuit. Et là, pour le coup, alors, il faut aller chercher ça, non pas dans la vie flamme et le cantique, mais plutôt dans la montée du Carmel et la nuit obscure au livre des nuits. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver dans ces ouvrages? Eh bien, Jean de la Croix parle de la durée transformatrice. Voilà. On est dans la nuit, ça dure, mais voilà, il se fait une transformation. Et il va parler du passage de la lumière qui disparaît à la lumière nouvelle et à ses différents niveaux. Alors, je le cite. Je suis désolé, vous ne l'avez pas, mais vous l'aurez sur la prochaine, sur la feuille numéro 13. Je ne pensais pas avancer tant, c'est pour ça. Donc, je lis un passage de la montée du Carmel. Ce passage de l'âme à l'union divine peut être appelé nuit pour trois causes. La première, pour le terme d'où l'âme sort. Parce que l'appétit doit être privé par leur négation de toutes les choses du monde qu'il possédait, et cette négation et privation est comme une nuit pour les sens de l'homme. Vous voyez, pourquoi la nuit? Parce que d'abord, au point de départ, nos sens qui étaient habitués à toutes sortes de biens, hein, ben, on les prive de ça. Voilà. Il y a une privation. Et du coup, ils se retrouvent dans la nuit. La seconde, donc la seconde cause pour laquelle on parle de la nuit, la seconde est la part du moyen ou chemin par lequel doit aller l'âme à cette union, et qui est la foi. Le point de départ, c'est une nuit, et puis aussi tout ce qui va accompagner le chemin, le moyen qui va conduire l'âme à l'union, qui est la foi, et la nuit. Alors, elle aussi, comme une nuit, étant obscure pour l'entendement. La troisième cause est de la part du terme où elle va, qui est Dieu. Oui, point de départ, une nuit avec la privation, le chemin, la nuit à cause de la foi, et puis le terme, ben, c'est Dieu, lequel, ni plus ni moins, est nuit obscure pour l'âme en cette vie. Évidemment, c'est le mystère qui dépasse absolument les prises de l'homme. Donc, l'âme doit passer par la nuit. Ça, Jean de la Croix insiste beaucoup, il y a une nécessité absolue, ouais. Il n'y a pas le choix. L'âme doit passer par la nuit. Et elle doit passer par la nuit en raison de l'attachement de l'homme aux créatures, qui représente une pure obscurité, alors que Dieu est pure lumière. Or, l'obscurité ne peut recevoir la lumière. Ça, c'est pas, évidemment. Saint Jean de la Croix, il revient très très souvent, c'est cette règle qu'il a trouvée chez Aristote, deux contraires ne peuvent subsister dans le même sujet. Voilà. Si le sujet veut accueillir la lumière de Dieu, lumière qui est ténèbre, à cause du trop-plein de lumière, il faut qu'il se détache complètement de tous les attachements qu'il avait auparavant aux créatures. Il ne peut pas y avoir les deux à la fois. L'obscurité qui est l'attachement aux créatures et la lumière qui est Dieu sont contraires. Le premier doit entièrement céder la place au second. Là, vous avez quelque chose de très radical. Hein. Ceux qui ont lu Saint Jean de la Croix, vous savez à quel point là, on ne peut pas transiger, hein. Il n'y a pas de demi-mesure. Alors, ce qui est important peut-être de noter à propos des nuits, c'est que Jean de la Croix parle d'attachement et non du fait d'avoir ou de manquer comme tel. Là, ce qui est important, c'est cet attachement, cet esprit de propriété, vous voyez, qui fait que je m'accroche. On peut s'accrocher à très peu de choses ou au contraire être relativement détaché tout en ayant pas mal de choses. Prenez par exemple les qualités humaines, vous pouvez avoir des gens qui ont des qualités humaines, des qualités d'intelligence tout à fait hors du commun et qui en même temps savent en être détachés. On ne leur demande pas de devenir stupide, hein, on leur demande d'en être détaché, ce qui n'est pas pareil. Hein. Donc la distinction entre l'attachement et le fait d'avoir ou non des biens divers. Quatrième point à voir avec vous, la doctrine de la foi, centrale dans l'enseignement de Jean de la Croix. Il en souligne le caractère à la fois certain et obscur. Alors, je vous lis dans la montée du Carmel, là encore, je suis désolé, vous n'avez pas le texte avec vous. Elle seule, la foi, elle seule est le moyen prochain et proportionné pour l'union de l'âme à Dieu. Car la ressemblance qu'il y a entre elle et Dieu est si grande qu'il n'y a pas de différence entre voir Dieu et croire en Dieu. Dieu est infini, elle nous le propose infini. Dieu est trinité en personne et unité en nature, et c'est ainsi que la foi nous le propose. Dieu est ténèbre pour notre entendement. La foi, elle aussi, est ténèbre et obscurité pour notre entendement. Et ce parallèle. La foi est le seul moyen par lequel Dieu se manifeste à l'âme dans cette divine lumière qui surpasse tout entendement. Et la citation se termine par cette phrase très importante. Plus l'âme a de foi, plus elle est unie à Dieu. Plus l'âme a de foi, plus elle est unie à Dieu. Alors là, vous avez quelques points évidemment essentiels. Hein. Je reviens quand même sur la nuit pour dire que dans l'itinéraire Saint-Joannique, vous avez d'abord la nuit du sens, première étape de la purification, dans laquelle l'âme se dépouille activement de toute attache aux créatures. Là, c'est surtout l'effort de l'âme, vous voyez, qui fait le vide. Hein. C'est la première part revient à l'ascèse de l'homme. Et puis ensuite vient la nuit de l'esprit, infiniment plus douloureuse, où Dieu lui-même, voilà, ça change, hein, Dieu lui-même entreprend de purifier l'âme et ses grandes facultés de l'intelligence, de la mémoire et de la volonté. L'unification se fait ainsi de l'extérieur vers l'intérieur. Vous voyez, on commence par l'essence, on commence à faire le ménage. À l'extérieur, c'est facile. Et pour l'intérieur, alors là, c'est l'œuvre de Dieu, jusqu'à la sortie de toute chose et de soi-même pour entrer dans le monde nouveau de Dieu. Chez saint Jean de la Croix, le renoncement ne connaît aucune limite, y compris quant au bien de l'esprit et aux faveurs surnaturelles auxquelles l'homme pourrait s'attacher. C'est très simple, pour saint Jean de la Croix, tout ce qui n'est pas Dieu doit être sacrifié à Dieu. Donc les faveurs extraordinaires, même ça, ça n'est pas Dieu, donc il faut dépasser. C'est là où on trouve, selon les mystiques, des petites variantes. Hein. Certains vont dire, il faut les considérer autrement. Chez saint Jean de la Croix, alors là, tout ce qui comporte un risque d'attachement est dangereux. Donc, on s'en détache. Rien de cela n'est Dieu, en effet, qui ne peut être saisi que dans la foi obscure. Voilà, je vous laisse là et nous poursuivrons la semaine prochaine.